Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fréquence Association. Cette semaine, plusieurs sujets. On va tout d'abord s'intéresser à l'association Amnesty International qui s'est mobilisée comme d'autres à l'occasion de la semaine du climat. Radio Campus Amiens a interviewé Martine Julien, la présidente du groupe local d'Amnesty International à Amiens concernant la lutte de cette ONG en faveur de la justice climatique.
Aujourd'hui, je reçois le groupe local amiénois d'Amnesty International, Martine Julien, sa présidente. Bonjour.
Bonjour.
On va parler des activités, des différentes missions d'Amnesty International et de son actualité. Et dans votre actualité, notamment le groupe local d'Amiens, vous prenez part à une semaine d'action pour l'urgence climatique et vous participez notamment aux marches du climat. Je voulais savoir un peu qu'est-ce qui vous avait motivé, qu'est-ce qui a motivé ce choix chez Amnesty International de rejoindre donc les différents collectifs et associations qui organisent cette marche et plus généralement tous les événements donc un peu partout dans le monde.
Alors oui, alors il faut que je te reprenne un petit peu d'historique sur la défense des droits humains dans le monde. Autour de ça, c'est deux choses. Déjà, toute la question de la responsabilité des entreprises. Chez Amnesty, quand quelqu'un fait quelque chose, c'est qu'il est responsable et donc on s'adresse à lui. Et on s'adresse notamment aux entreprises quand elles cherchent à exploiter un minerai, par exemple, et qu'elles peuvent détruire des terres, notamment des peuples autochtones. Donc Amnesty défend aussi toute la question du droit à la vie et à vivre dans leur façon de vivre, des peuples autochtones. Donc c'est deux angles d'attaque. Donc pour nous, en fait, le combat et la crise climatique, la crise climatique pour nous, c'est une crise des droits humains. Parce que la première chose qui est atteinte dans la destruction de l'environnement, c'est le droit à la vie. Et le droit à la vie, pour Amnesty, c'est l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Texte de base pour la défense des droits humains dans le monde.
Ah, donc c'est vraiment indissociable pour vous.
Voilà, c'est indissociable. Et puis ça se traduit par le droit à avoir de l'eau potable, en l'occurrence, à pouvoir se nourrir, se loger et aussi, bien sûr, à la santé. Et donc tout cela, on le voit à travers un certain nombre d'exemples. Donc je vais, l'actualité c'est l'Amazonie et donc le projet, la déforestation, l'exploitation des minerais au Brésil d'un côté, mais aussi en Guyane française, donc qui entraîne le péril de la forêt. Et c'est quand même l'Amazonie, c'est quand même le poumon de l'humanité. Et le poumon de l'humanité, ça dit bien ce que ça dit, c'est bien pour tout le monde, pour que tout le monde puisse vivre. Donc c'est un petit peu tout cela, en fait, qui nous a rapprochés, sachant que pour nous, il y a un historique, puis aussi il y a toute la question des réfugiés, des gens qui fuient parce qu'ils ne peuvent plus se nourrir sur place. Alors il y a des exemples un peu anciens, que peut-être certains vont se rappeler, vous vous souvenez peut-être de la mer d'Aral et de sa disparition. Donc ça, il y avait plein de pêcheurs en fait qui allaient pêcher dans cette mer. Mmh. Et cette mer, elle a quasi disparu. Et avec les années, avec vraiment un engagement fort des pouvoirs locaux, la mer d'Aral a retrouvé 50% de sa capacité de pêche. Donc il y a à nouveau des pêcheurs qui peuvent vivre de leur pêche sur le secteur. Donc c'est un exemple, mais ça vous montre à quel point la nourriture, l'emploi, le logement, tout ça est lié en fait notamment à une source de vie, en l'occurrence l'eau, mais aussi la pêche.
Alors le secrétaire général d'Amnesty International a d'ailleurs dénoncé récemment l'inaction de la plupart des gouvernements. Alors je reprends sa citation, donc, l'inaction de la plupart des gouvernements, en dépit des preuves scientifiques accablantes, est sans doute la plus grave violation intergénérationnelle des droits humains de toute l'histoire.
Alors oui, Kumi Naidoo, donc notre nouveau secrétaire général, est très engagé sur ce point. Et il y a quelques jours maintenant, il y avait un sommet en fait international qui réunit donc un certain nombre d'associations, une centaine d'associations de la société civile, ainsi que l'ONU, la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc c'est bien dire que les organisations internationales officielles, donc où se réunissent les États au niveau mondial prennent aussi la chose en main. Et leur objet, c'est justement de définir un plan d'action concret et réalisable. En ce moment même, au niveau mondial, là, il y a quelques jours maintenant, était aussi remis le prix de l'ambassadeur de conscience.
Voilà, à Greta Thunberg.
Voilà.
Et aux autres militants de son mouvement, donc Fridays for Future.
Voilà, alors les autres militants de son mouvement, pour elle, c'est qui? Donc quand Kumi Naido lui a remis ce prix, on pouvait aller voir sur Facebook hein, la remise de prix, vous voyez Kumi avec Greta, elle a dit, c'est pour moi, donc nous on reconnaît la question d'être chef de file et de s'être engagé, d'avoir combattu, mais elle a emporté avec elle 1 million de jeunes à travers le monde. Et ça veut dire un engagement, là, actuellement, sur la marche du climat, ça veut dire 1000 villes et 1 million de jeunes. Donc, c'est vraiment un mouvement fort. Et donc, nous, on reconnaît cette question-là et aussi, bien, de tous les gens qui s'engagent avec elle. Pour nous, ben, le climat et les droits humains ne font qu'un. Donc, c'est vraiment la défense de ça qui permettrait le droit à la vie pour tout le monde et notamment pour les jeunes qui vont connaître les situations les pires demain quand eux vont être adultes et vont devoir mener leur vie, donc avoir un toit, de l'eau, etc. Et tout ça dans le monde. Donc à l'heure actuelle, nous, la défense du climat, c'est pour nous une campagne aussi qui est rattachée à ce qu'on appelle les défenseurs des droits. Les défenseurs des droits, c'est quoi? Ce sont les personnes qui aident les autres. Alors, et dans le domaine des défenseurs de l'environnement, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui sont menacés, voire pire, puisque, outre les menaces, on compte un certain nombre de morts. Une organisation internationale donc spécialisée sur ce sujet compte 1000 morts en 2018 dans son dernier rapport. Donc, vous voyez, donc c'est vrai qu'on peut se relier à tout ça. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est ben, les personnes qui sont menacées parce qu'elles défendent l'environnement. Et donc ça, on a un certain nombre d'exemples et on a des exemples donc de menaces de mort aussi. Et donc du coup, on va soutenir notamment une marche qui se tient dans un pays où les droits humains, c'est pas simple. C'est la marche du Pakistan. Mmh. Donc elle est soutenue par notre section en fait en Asie. Et en Asie, donc vous avez un acteur, réalisateur très connu, Adnan Malik, je m'excuse pour la prononciation, que Amnesty soutient donc dans le cadre de sa démarche, puisqu'il est bout en train sur la marche avec un jeune étudiant pakistanais lui aussi, qui est l'organisateur en fait de la marche pakistanaise, qui s'appelle Iqbal Bodruddin. Et donc, parallèlement à ça, alors c'est vrai qu'il y a une marche au Pakistan, mais parallèlement, le gouvernement s'engage, puisqu'il y a un gros programme qui est mis en place pour le reboisement au Pakistan. Mmh. Donc, si vous voulez, c'est, nous, c'est pas l'idée d'être dans « ah ben non, il n'y a rien qui est bien », etc. Il y a aussi, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, les entreprises, elles sont responsables, mais là, les gouvernements le sont aussi. Et donc Amnesty, son travail, c'est aussi d'encourager les personnes autour de situations concrètes, de personnes, de groupes de personnes, à dire « il y a un problème dans tel pays, tel défenseur de l'environnement est en danger, appelez, prenez 5 secondes, vous mettez 5 secondes pour faire un SMS au copain, mais prenez 5 secondes pour aider cette personne. » Et donc ça, vous pouvez le retrouver sur amnesty.fr et sur la page Facebook d'Amiens, Amnesty International Amiens.
Amnesty, donc le groupe local aminois qui fait sa rentrée entre guillemets avec beaucoup d'associations donc au moment du salon Agora il y a quelques jours, c'est l'occasion pour vous justement de toucher un large public, notamment des familles. Comment ça s'est passé ce salon?
Oui, alors ça s'est très bien passé. Nous faisions partie des stands sur lequel passait la chasse au trésor cette année. Donc on avait des enfants donc de 4 à 10 ans. Et leurs parents qui étaient là. Et donc, nous avions deux petits jeux pour eux. Un mot mêlé pour les plus grands autour de la notion de discrimination. Mmh. Donc, ça nous permettait voilà, d'approcher cette notion-là avec le parent derrière. Et de l'autre part, pour les plus petits, donc plutôt une animation en étoile avec les droits de l'enfant. Et donc à chaque pointe de l'étoile qu'il pouvait choisir, on lui faisait lancer un dé et on comptait dans le sens des aiguilles du montre le nombre de de pointe de l'étoile à passer pour arriver sur un nouveau droit. Donc souvent, ils choisissaient famille, amour, etc. Et donc, on arrivait à la santé, à l'eau, au logement. Et à chaque fois, donc, on déroulait un petit jeu avec lui qui permettait un petit peu d'expliquer le droit. Puis d'expliquer aussi que ces droits-là, tout le monde ne les a pas encore dans le monde. Donc, c'était aussi la question de pouvoir relativiser et puis d'ouvrir un petit peu sur un futur. Donc, comme vous voyez, les droits humains, on prend les jeunes au plus jeune âge pour leur en parler.
Vous intervenez aussi en milieu scolaire régulièrement?
Alors oui, alors en milieu scolaire, donc on a un agrément de l'éducation nationale, on a aussi un agrément éducation populaire, et donc on mène dans les collèges et lycées sur Amiens et autour d'Amiens un certain nombre d'actions. Alors parfois elles sont thématiques, ça peut être la peine de mort. Alors c'est pas un sujet très drôle, mais c'est un sujet quand même qui est fortement dans l'actualité, dont les jeunes discutent beaucoup entre eux. D'ailleurs, on les encourage à débattre entre eux, à se rapprocher de nous s'ils veulent du matériel, etc. pour faire ça. Et comment dire, on a touché là l'an dernier dans notre petit bilan de l'année sur des questions humaines, dans les 450 jeunes. Alors, vous allez me dire, c'est très peu compte tenu du nombre de lycéens qu'il peut y avoir dans un lycée, par exemple. Mais pour nous, c'est déjà beaucoup et ce sont, comment dire, des petites graines qu'on sème pour l'avenir aussi. Puisque c'est souvent un temps, quand on discute avec des adultes, voilà, des gens qui ont pu nous rencontrer antérieurement, nous disent « Ah ben oui, ça m'a marqué, j'ai vécu ça à l'école. » Et souvent, ça chemine en fait, hein, parce que c'est comme tout. Pour prendre une décision, pour agir, le temps humain, de la réflexion, de la concertation, de l'échange avec les uns les autres et entre jeunes, c'est très important pour pouvoir agir. Et donc nous, Amnesty, au groupe local, mais aussi aux groupes de jeunes qui sont avec nous, puisque faut savoir que l'an passé, il y avait 3 groupes de jeunes qu'on appelle antennes jeunes sur Amiens, 2 dans des lycées et une à la faculté. Donc, pas hésiter à se rapprocher de ces structures ou à nous interpeller sur Facebook pour nous dire « mais moi, je veux monter une structure ». Voilà, je veux agir dans mon lycée, dans mon collège, au niveau de ma fac, voilà. Donc, n'hésitez pas à se rapprocher de nous pour ça, puisque ben après, on vous fournit du matériel, vous montez un petit groupe de personnes, et puis on est là pour vous soutenir si besoin, et puis vous êtes de toute façon très créatifs, donc il n'y a pas de souci.
On peut également aider Amnesty International via des dons sur le site.
Alors oui, bien sûr. Hein. Amnesty donc est une organisation qu'on appelle indépendante financièrement, doublement indépendante. Pourquoi ? Parce que on se doit de garder une certaine distance vis-à-vis des pouvoirs publics pour justement s'adresser à eux en tant que personne responsable. Donc on va aller voir les députés par exemple pour leur dire bah voilà, on a telle situation, on voudrait bien que ça bouge au niveau des lois. Donc on est là en amont des lois pour dire on voudrait que ça aille dans tel sens, l'écriture de tel article. Mais après on est là aussi quand la loi est votée pour dire ah mais là elle n'est pas conforme au droit international, vous êtes engagé en tant qu'État à. Et on est aussi là pour dire ce n'est pas effectif à tel endroit. Et pour tout ça, donc on a des chercheurs qui sont payés pour nous dire ce qui est ou pas en cours. Donc ça va être le cas, par exemple, voilà, dernièrement, il y a eu un rapport sur la France, bon, il y en a sur toutes les questions dans le monde, sur la question des défenseurs des droits qui aident les migrants. Alors défenseurs des droits, donc ça peut être les professionnels, les avocats, les travailleurs sociaux, les professionnels de santé, ça peut être aussi les bénévoles qui agissent, et je sais qu'ils sont nombreux à Amiens, et qu'il y a des autres. Et donc toute la question c'est, mais comment ça se passe? Et est-ce que je fais les choses et que je ne vais pas être embêtée? Donc il y a de plus en plus de contentieux. Il y a aussi des contentieux de journalistes d'ailleurs. Hein. Et donc tout cela, ça va être l'objet en fait d'un échange qui va avoir lieu avec notre ancien président d'Amnesty France, Monsieur Francis Perrin, actuel vice-président d'Amnesty France, qui sera présent à Amiens le 8 octobre. À la faculté, au campus, dans le cadre de la semaine de l'égalité. Donc nous sommes conviés par la faculté dans le cadre de son 50e anniversaire. Et donc nous avons donc fait venir cette personnalité qui sera accompagnée de notre responsable en charge justement des questions sur la côte des migrants et de leurs défenseurs. Et qui sera là pour parler concrètement de ce qui se passe sur le terrain.
Merci Martine Julien.
Merci et venez nombreux.
Un reportage réalisé par Hugo Brisset de Radio Campus Amiens.
Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Vous êtes toujours dans Fréquence Association et ce jusque 10h. Après avoir parlé d'Amnesty International, on va parler de toute autre chose. On va parler de don du sang. Peut-être donnez-vous déjà votre sang de manière occasionnelle. Eh bien sachez qu'une toute nouvelle maison du don vient d'ouvrir ses portes à Arras. Un reportage signé Radio Scarpe Sensée.
C'est un don de soi, ça ne réclame pas d'argent, ça réclame du temps. Et puis ça peut être très sympathique de venir à plusieurs, on peut passer un bon moment.
Le don du sang est un besoin permanent. À cette fin, une maison du don a ouvert à Arras pour permettre aux gens de donner toute la semaine. Le docteur Brasseur nous a accueillis pour discuter du fonctionnement de cet établissement et de son métier.
Je suis responsable du bassin de prélèvement arageois pour le don de sang, de plasma et de plaquettes.
La maison du don à Arras, comment est-ce que ça fonctionne ?
Alors la maison du don d'Arras est une structure récente qui a été ouverte en avril 2018 et qui accueille du lundi au samedi les donneurs bénévoles qui souhaitent effectuer un don de sang, un don de plasma ou un don de plaquettes. Et ils sont les bienvenus de 9h à 18h tous les jours, de 11h à 19h le jeudi et le samedi de 8h à 13h.
C'était quoi l'objectif lors de la création de cette maison du don, en plus des collectes mobiles déjà existantes ?
Alors la maison du don, c'est une structure qui accueille sur place les donneurs et également qui organise les collectes mobiles du secteur de l'Arageois. Donc la maison du don, c'était une façon de pouvoir se recentrer sur Arras, puisqu'avant nous avions une structure à Dainville qui a fermé. Nous avons emménagé dans les locaux du centre hospitalier d'Arras pour que les Arageois aient leur maison du don. Et puis c'est une structure qui est plus neuve, plus moderne et donc plus confortable, en particulier en ce moment avec la climatisation pour les donneurs.
Donc c'est vraiment une collaboration étroite entre la Maison du Don et les collectes mobiles finalement.
La collaboration est très étroite entre Maison du Don et collectes mobiles, puisque ça nous permet de répartir les dons qui sont nécessaires tous les jours entre ceux qui vont être effectués en ville ou bien dans des cars ou bien dans des établissements scolaires ou des entreprises, et puis les dons qui sont effectués sur le site fixe.
Vous l'avez dit, vous êtes installé sur le centre hospitalier d'Arras. Ça s'est bien passé, cette installation ? Vous avez eu du soutien des partenaires ?
L'installation au niveau du centre hospitalier d'Arras s'est très bien passée, puisque nous avons été aidés par le centre hospitalier qui nous a très bien accueillis, qui nous a permis d'avoir des locaux dédiés à notre activité. Également, nous louons un parking qui est réservé aux donneurs de sang pour qu'ils puissent venir nous voir avec facilité. Et puis, franchement, les locaux sont très beaux. C'est très agréable pour les gens de venir donner ici. Et au niveau de la mairie, nous avons eu un gros soutien, puisque c'est l'équipe municipale qui nous a aidés à trouver ce site d'implantation.
Alors, au niveau du don du sang en général, au niveau des stocks sur l'année, comment ça se passe en ce moment ?
Alors, les stocks de don du sang sont observés à la loupe tous les jours, on fait des bilans toutes les semaines. Et puis, les stocks sont importants pour les globules rouges, qui se conservent 42 jours, pour les plaquettes, qui se conservent très peu de temps, puisque c'est au maximum 7 jours. Et puis également pour le plasma, qui lui peut se congeler et se conserver plusieurs mois. Les stocks sont parfois tendus, en période en particulier de vacances scolaires, par exemple. Les donneurs habituels sont absents de la région, et donc nous observons une baisse de dons. Et puis nous avons les périodes où nous n'avons pas les étudiants qui sont présents sur place. Et nous avons également les périodes estivales où peut-être les gens partent en vacances, se disent « je donnerai plus tard » et ou alors il fait un peu chaud, donc je pense que je donnerai quand il fera meilleur. Et il faut savoir que nous sommes équipés pour les accueillir dans de très bonnes conditions, avec des locaux fixes qui sont climatisés. Et en collecte mobile, nous avons investi dans des ventilateurs, des nébulisateurs. Enfin, on fait ce qu'on peut, vraiment ce qu'il faut pour que les gens puissent être accueillis dans de bonnes conditions et donnés dans de bonnes conditions.
Donc, lors de ces périodes difficiles, comment on gère le stock, en fait? Est-ce qu'on arrive à s'en sortir, finalement, avec tout ce qu'on a prélevé avant?
Alors, on a à la fois les stocks qui sont déjà présents, et puis on fait des actions sur les groupes ou les sous-groupes particuliers qui nous manquent. Et à ce moment-là, on va mettre en place des actions de ce qu'on appelle notre service relation à distance, par des SMS, par des appels téléphoniques, par des mails. Et puis, on peut aussi avoir un renfort au niveau régional ou au niveau national du service communication qui va envoyer des communiqués de presse, lancer une campagne, par exemple, télévisuelle, radiophonique, pour pouvoir solliciter les gens et surtout les informer des difficultés et puis leur donner le moyen de pouvoir nous contacter et venir nous voir pour avoir des renseignements et même données.
On a parlé un peu des périodes de vacances. Même si on bouge, finalement, on peut même aller donner dans une autre région, à notre centre, pourquoi pas?
Alors, on peut tout à fait aller donner dans un autre centre, sachant qu'en plus, maintenant, le dossier du donneur de sang est national, donc on le retrouve très aisément dans une autre région. Par contre, il faut bien dire qu'en vacances, la priorité n'est pas forcément de donner et on se dit « Oh, je le ferai à la rentrée ». On a le petit agenda avec tout ce qu'on doit faire quand on reviendra, et en particulier, pourquoi pas, donner son sang. Le problème est plutôt le fait que le don est différé et donc il nous manque sur l'instant.
En plus de pouvoir donner toute l'année, à la maison du don d'Arras, on peut effectuer plusieurs types de dons. Chacun a une durée différente et des étapes à respecter.
Alors un don compte environ 3/4 d'heure de présence avec nous. Vous avez l'enregistrement, vous avez l'entretien médical, puisqu'il y a une discussion avec le médecin pendant quelques minutes pour vérifier que tout va bien. Vous avez le temps de prélèvement, donc l'infirmière va gérer un don qui dure moins de 10 minutes pour ce qui est du don de sang, et environ 1 heure quand il s'agit d'un don d'aphérèse, c'est-à-dire un don de plasma ou un don de plaquettes. Et puis vous avez ce temps de récupération qu'on appelle la collation, qui est un moment qui est loin d'être déplaisant, et là vous êtes tout à fait libre de rester au moins 1/4 d'heure, et même un peu plus si vous le souhaitez.
Ça se fait dans une ambiance conviviale, quoi.
Exactement, le but du jeu c'est de recevoir les gens dans une ambiance conviviale, d'assurer une collation qui permet un échange également avec le personnel ou avec d'autres donneurs. Et puis, le but, c'est de donner l'envie aussi de revenir parce que ça s'est bien passé et que finalement, ça n'a pas pris tant de temps que ça.
Au niveau des conditions de don, quelles sont les conditions, on va dire, générales, globalement, qu'on demande aux gens pour donner?
Donc, pour donner son sang, il faut avoir au moins 18 ans et avoir moins de 71 ans. On peut donc donner jusqu'à la veille des 71 ans. Pour donner sur les machines, donner le plasma ou les plaquettes, là, il faut avoir moins de 66 ans. Vous avez les critères d'âge, vous avez également des critères de santé, puisque je vous disais qu'on avait un entretien médical qui vérifiait qu'il n'y avait pas de soucis. Donc là, ce sera étudié au cas par cas avec le médecin. Il y a un questionnaire médical pré-don qui est à compléter, et puis après, une période d'échange, de discussion avec une infirmière ou un médecin pour vérifier qu'on peut donner.
Alors, il y a parfois des évolutions dans ces conditions de don, j'ai envie de dire. On a parlé assez récemment là de l'évolution de l'ouverture au don pour les homosexuels. Comment on fait évoluer ces conditions?
Donc, les conditions pour pouvoir donner son sang sont gérées par la loi. Et vous avez régulièrement un décret de loi qui est mis à jour. Donc, le dernier daté d'avril 2016, où le don avait déjà été ouvert aux hommes qui avaient des relations avec des hommes, avec une période d'abstinence d'au moins 12 mois pour pouvoir donner. Donc, en fait, c'est cette période qui est modifiée. Et donc, le nouveau décret, qui paraîtra sans doute donc pour une application en 2020, réduit cette période à un temps de 4 mois. Au niveau des contre-indications médicales, que ce soit pour des soins chez le dentiste, une intervention chirurgicale ou des voyages à l'étranger, donc les contre-indications médicales sont revues régulièrement et basées sur des statistiques, des avis scientifiques et donc sont argumentées officiellement avant d'être validées et d'être entérinées par la loi.
En plus du côté légal, est-ce qu'il y a des modernisations qui sont en cours ou à venir pour le don du sang?
Alors, il y a toujours des recherches qui sont faites au niveau des produits sanguins. Le but du jeu étant de s'améliorer toujours pour la sécurité des produits. Donc, vous avez, par exemple, des inactivations de bactéries qui vont permettre de renforcer la sécurité du produit. Vous avez d'autres choses qui sont à l'étude régulièrement pour toujours optimiser la sécurité des produits et donc la sécurité des receveurs.
Alors pour finir, si on devait dire quelque chose pour motiver les gens à venir donner finalement, puisqu'on en a toujours besoin, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ?
Donc les patients ont toujours besoin de produits toute l'année, et même si la médecine fait des progrès, les progrès ne remplacent pas en l'occurrence les produits sanguins, qu'on ne sait toujours pas fabriquer, du moins à grande échelle, pour pouvoir répondre à tous les besoins des hôpitaux et des cliniques. Et sachez que c'est vraiment un don extrêmement précieux. C'est précieux parce que c'est un don de soi, ça ne réclame pas d'argent, ça réclame du temps. Et puis ça peut être très sympathique de venir à plusieurs, on peut passer un bon moment. Donc venir donner, redonner régulièrement, et puis en parler autour de soi et faire venir des amis, des collègues, c'est, je pense, un très beau programme.
C'était le docteur Brasseur pour parler de la maison du don à Arras sur le site du centre hospitalier d'Arras, 4 rue Auguste Dumans. Pour tout renseignement et prise de rendez-vous, contactez au 03 28 54 22 19. Interview réalisée par Valentin Leplan pour Radio Scarpe Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Et voilà pour ce reportage sur le don et notamment le don du sang, signé Radio Scarpe Sensé. Vous êtes toujours sur Radio Plus, il est 9h passé de 28 minutes. Pour terminer dans notre sélection de reportages, cette initiative dans le Dunkerquois des jeunes majeurs de l'Institut Van Covenberg en collaboration avec l'Association des paralysés de France, l'APF, et l'association Aide aux personnes âgées ou à handicap moteur. La communauté urbaine de Dunkerque a en effet édité et diffusé la première édition du guide pour se faciliter la ville du territoire, un guide conçu par et pour des personnes déficientes motrices et qui a pour vocation de faciliter justement la vie de ces personnes qui se déplacent en fauteuil roulant et en recensant bien évidemment les lieux et les services accessibles, un sujet proposé par Radio Rencontre à Dunkerque.
À l'initiative des jeunes majeurs de l'Institut Van Covenberg et en collaboration avec l'Association des paralysés de France et l'Association Aide aux personnes âgées ou handicap moteur, la communauté urbaine de Dunkerque a édité et diffusé la première édition du guide pour se faciliter la ville du territoire. Conçu par et pour des personnes déficientes motrices, ce guide a pour vocation de faciliter la vie des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant ou recensant des lieux et services accessibles. Rencontre avec Madame Brisbard qui revient sur la genèse de ce projet. Je suis en compagnie de Madame Brisbard, vous représentez l'Institut Van Covenberg.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Alors comment cet institut a participé à ce projet de guide ?
Alors en fait, nous avons accueilli une stagiaire il y a quelques années et à l'issue de son stage, il fallait qu'elle mette un projet en place et elle a observé sur l'unité ce qu'on faisait au niveau des activités, comment on accompagnait les jeunes et donc on a ensemble, suite à des échanges, elle a proposé un guide du routard et on a commencé à travailler avec les jeunes sur ce guide.
Est-ce que ce sont les jeunes qui vous ont dit quels sont les points un peu difficiles qui sont accessibles?
Bien entendu, c'est par le biais justement de notre accompagnement, mais c'est aussi les difficultés qu'on voyait, qu'ils rencontraient sur le terrain lors des sorties, donc quand on prenait les bus, quand on allait en ville, quand on allait au magasin pour dire de faire les courses, pour faire des ateliers cuisine ou autre, qu'on se rendait compte de leurs difficultés et eux nous faisaient aussi ce retour-là, qu'ils étaient en difficulté difficultés sur certains points. Donc c'est fait effectivement par rapport à ça qu'a démarré aussi ce projet.
Comment vous avez fait ce travail de collecte d'informations pour les remonter jusqu'à la communauté urbaine ?
Alors, par petits groupes, on a fait des petits groupes et sur différents thèmes, on s'est mis d'accord. Donc, commerce, divertissement, loisirs, accessibilité par rapport aux moyens de transport, enfin, par rapport à des thèmes. Et quand les thèmes ont été définis, les jeunes ont choisi de se mettre sur les différents groupes. Et après, ils ont été accompagnés soit par des AMP, soit des éducateurs. Et on est allé directement à la rencontre des commerçants, à la rencontre des structures, à la rencontre sur le terrain, en utilisant les différents moyens de transport ou autres. Et c'est comme ça qu'on a pu remplir des fiches qui nous ont permis d'avancer et de faire les descriptifs pour mettre en place ce guide du routard.
C'est un travail titanesque.
C'est un travail effectivement qui nous a demandé beaucoup de temps, mais qui est important et indispensable pour nos jeunes, pour dire d'avancer sur le quotidien et pour eux plus tard. Et d'ailleurs, il n'est pas terminé ce travail, puisque nous allons reprendre de nouveaux groupes avec de nouveaux jeunes, puisqu'il y a des jeunes qui ont demandé pour participer. Ils ont eu envie de participer à ce projet et on va le faire évoluer, bien entendu. Et donc, tous les ans, il faudra le réactualiser, parce que bien sûr, il y a soit des commerces qui vont fermer, soit il y a de nouveaux moyens de transport aussi qui vont évoluer. Et pour faire évoluer tout ça, on va continuer donc les groupes de travail.
En tant qu'éducatrice, vous êtes fière ?
Bien sûr, mais je suis avant tout fière des jeunes, puisque c'est leur travail avant tout. Nous, on est là pour les accompagner dans ce guide, mais c'est avant tout leur travail à eux. C'est eux qui font la démarche. Nous, on est là pour les aider, pour les accompagner. Donc, je suis fière effectivement de leur travail qu'ils ont fait et fière de l'équipe qui les accompagne.
Au cours de cette présentation, j'ai rencontré Madame Schutt de la direction du handicap qui revient sur comment la communauté urbaine a accompagné ces jeunes à la réalisation de ce guide.
Ce sont vraiment en fait les jeunes de l'Institut. Certains d'entre eux avaient pour projet en tout cas d'essayer de vivre en autonomie. Et leur difficulté, c'était de se dire quand on est en foyer ou en institution, c'est super parce que finalement les éducateurs s'occupent un peu de tout. Mais si un jour on devait se retrouver en autonomie, dans son appartement, se poserait la question de savoir où on peut aller acheter ses légumes, où on peut aller acheter ses vêtements, où on peut aller s'acheter tout ce qui concerne le quotidien, comment on fait pour se déplacer, dans quel cinéma peut-on aller, parce que finalement là aujourd'hui ils ont une prise en charge et un accompagnement, sauf que les personnes qui vivent en autonomie n'ont pas forcément cette possibilité d'avoir cet accompagnement. Et donc l'idée c'était de se dire mais comment on fait nous pour savoir, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver dans un endroit et de se rendre compte qu'on ne peut pas y rentrer.
Comment s'est passé ce travail avec la communauté urbaine ?
Alors nous, on a accepté de les accompagner, mais en leur disant bien, nous ne sommes pas les experts de votre déficience. Donc ok, on y va, mais la condition, c'est que vous vous investissiez avec nous dans ce projet et de se dire que vous êtes en situation de handicap moteur, mais vous n'êtes pas les seuls sur le territoire. Il y a d'autres structures qui appartiennent à l'instance de concertation qui est la Commission intercommunale pour l'accessibilité. Et donc nous, on veut bien vous accompagner. Par contre, on vous demandera de ne pas travailler seul. On souhaite mettre d'autres partenaires et d'autres acteurs autour de la table. Et c'est comme ça qu'en fait, le foyer des Salines de la PF et l'APAM se sont joints à nous. Alors l'APAM avec l'ESCAL, avec leur SAVS, on s'est mis tous autour d'une table. Et on s'est dit, est-ce que d'abord, vous êtes tous d'accord pour travailler ensemble ? Et nous, la CUD, on est juste là pour vous aider sur, on va dire, le côté un peu méthode de projet. On vous accompagne sur la méthodologie, sur l'organisation des réunions, les conceptions de fiches. Mais c'est vous qui faites le boulot, qui allez sur le terrain. Donc ça a été vraiment un travail partenarial. Enfin, on ne pouvait pas faire sans eux. Je pense qu'à un moment donné, eux, en termes d'organisation, parce que ce n'est pas leur métier, ils étaient aussi un peu bloqués pour monter et organiser le projet. Donc nous, on a été vraiment sur l'ingénierie de projet et eux vraiment sur le contenu du guide. Et ensuite, la CUD, une fois que les informations ont été Donc toutes rassemblées, on s'est chargé également de l'impression, de l'édition et de la diffusion du guide sur le territoire. Donc c'est vraiment un travail, voilà, vraiment, on ne pouvait pas faire les uns sans les autres. Finalement, aujourd'hui, quand on voit le succès qu'a ce guide, c'est qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie attente qui est aussi et qui sera de plus en plus forte avec le vieillissement de la population, puisque la question de la mobilité réduite, forcément, quand on avance en âge, elle est de plus en plus importante. Et puis on a beaucoup de mails de personnes, des individus en fait, qui sont ni membres d'une association, mais qui ont un membre de leur famille, une maman, un enfant en situation de handicap et qui se retrouvaient finalement confrontés aux mêmes difficultés que les jeunes. Donc moi, je me dis, c'est une belle action qu'on a fait pour une catégorie de la population qu'on a malheureusement souvent oubliée, hein, parce que je pense que les lois sur le handicap, il y en a une en 75, une en 2005, et on voit encore comment aujourd'hui on galère quelquefois pour faire en sorte que l'ensemble des lieux et services soient accessibles. Et ben, ce guide, finalement, il permet de répondre à une partie de la population qui n'avait pas jusqu'à présent encore la possibilité d'avoir cette information en amont. Moi, j'ai vécu des aventures. Voilà, 2 ans, je ne vois pas leur sourire, mais je les ai entendus pendant 2 ans. Quand ils venaient en réunion, ils étaient super motivés, ils étaient contents d'être là. On voyait qu'ils avaient envie de donner. Et je trouve que voilà, c'est pas ça. Moi, je pense que c'est le plus beau dossier qui est abouti là depuis ces 2-3 dernières années. C'est vraiment un dossier. Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Hein.
Est-ce que c'était important pour vous, le soutien de l'État via la déléguée ministérielle qui est venue ?
Évidemment, je pense que c'est une mise en lumière. Voilà, quand on a une déléguée ministérielle qui se déplace, moi, la volonté que j'avais aujourd'hui, c'était vraiment de remercier les jeunes, de les mettre en avant, de valoriser leur travail. Et je pense qu'avec le président de la communauté urbaine de Dunkerque et la déléguée ministérielle à l'accessibilité, je pense qu'aujourd'hui, ça a été une façon pour moi, en mobilisant ces acteurs, de les mettre en avant, de les remercier parce qu'ils méritent vraiment, quoi. Et donc, évidemment, la venue de Brigitte Thorin, je suis aussi très, très, très contente pour eux qu'ils aient pu être remerciés par la déléguée ministérielle.
Madame Brigitte Thorin, déléguée ministérielle à l'accessibilité, est venue en personne saluer le travail effectué par ces jeunes et rappeler le caractère unique de cette initiative.
C'est une excellente initiative, c'est une très belle initiative. Et surtout, ça répond à un besoin qui est vital. Aujourd'hui, n'importe qui a une heure et demie à perdre dans un territoire qu'il ne connaît pas, il trouve toujours près de l'endroit où il se trouve un endroit pour voir un film, visiter un musée en vitesse. Voilà, et bien ça, pour près de 12 millions de nos concitoyens, ça n'est pas possible parce que tout n'est pas accessible, et même parfois ça l'est, mais on ne sait pas que c'est accessible. Et donc dès qu'on a une difficulté pour se mouvoir ou pour participer aux choses quotidiennes de la vie, on est confronté à un parcours du combattant. Et tout simplement parce qu'il nous manque la simple information de à tel endroit je serai accueilli comme tout le monde et je pourrai bénéficier des prestations comme tout le monde. Et c'est vraiment extraordinaire que ces jeunes aient pris non seulement leur destin en main, mais répondent aussi aux besoins vitaux de tant d'autres personnes, pas évidemment des personnes à mobilité réduite ou des personnes handicapées, mais aussi plein d'autres, donc qui éprouvent les mêmes difficultés, les parents avec la poussette qui peuvent pas se rendre à la boulangerie, qui peuvent pas se rendre dans un musée, qui peuvent pas se rendre à la mairie, c'est tellement important d'avoir cette information sur les possibilités qui sont offertes à nous en tant que citoyens. Et c'est tellement important d'offrir cette information parce qu'elle n'existe pas aujourd'hui, elle n'est pas sur le marché. Et des initiatives comme ça, je l'ai dit, il y en a très peu. Je connais une autre ville qui a fait la même chose, mais elle a fait appel à une start-up pour le faire. Et là, c'est des petits gars, des gamines qui ont pris leur destin en main et qui l'ont fait. C'est magnifique.
Comment se passe votre travail en tant que délégué interministériel ? Comment se passe le contact avec les collectivités ?
Moi, j'ai la chance de travailler avec toutes les collectivités qui veulent avancer. avancer dans l'accessibilité, mais en fait c'est un moyen, l'accessibilité. En fait, les collectivités, elles veulent avancer dans le vivre ensemble, dans la construction d'une cité inclusive où chacun trouvera sa place, et la place qu'il choisira, pas la place qu'on lui assignera. Donc j'ai la chance de travailler avec toutes les collectivités qui sont dans cette dans ces démarches-là. Elles sont de plus en plus nombreuses. Dunkerque et la communauté urbaine fait partie des bons élèves. Il y a toujours eu cette volonté de construire la cité du vivre ensemble, et même aujourd'hui la cité du vouloir accueillir aussi des touristes notamment. Et évidemment, à chaque fois qu'il y a d'excellentes initiatives ou des efforts à faire valoir, eh bien, le gouvernement et la déléguée ministérielle à l'accessibilité qui sert ce gouvernement est toujours là pour promouvoir ces initiatives, parce qu'en fait, il faut montrer que il faut pas restreindre ses envies, faut pas abandonner ses rêves. Tout est possible quand on y met de l'énergie, et il y a des collectivités qui y arrivent, et ça peut donner envie à d'autres de s'y mettre.
Un reportage de Nasser Moumadi pour Radio Rencontre.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Voilà, concernant ce reportage signé Radio Rencontre. Dans quelques instants, eh bien, on vous parlera de l'actualité associative. Pour l'heure, voici John Lennon avec Woman.
Well, do-do-do-do-do.
John Lennon sur Radio Plus en ce jeudi 3 octobre. Allez, tout de suite, l'actualité associative dans Fréquence Association. La France vient d'adopter sa feuille de route pour l'agenda 2030. Agissons pour un monde plus durable et solidaire. Autour de 6 enjeux que je vous détaille. Le premier enjeu, agir pour une société juste en éradiquant la pauvreté, en luttant contre toutes les discriminations et inégalités, en garantissant les mêmes droits, opportunités et libertés à toutes et à tous. Transformer les modèles de société par la sobriété carbone et l'économie des ressources naturelles pour agir en faveur du climat, de la planète et de sa biodiversité. S'appuyer sur l'éducation et la formation tout au long de la vie pour permettre une évolution des comportements et modes de vie adaptés au monde à construire et aux défis du développement durable, c'est le troisième axe. Quatrième axe, agir pour la santé et le bien-être de toutes et tous, notamment via une alimentation et une agriculture saine et durable. Cinquième axe, rendre effective la participation citoyenne à travers notamment le renforcement de l'expérimentation et de l'innovation territoriale. Et enfin, le dernier point, œuvrer au plan européen et international en faveur de la transformation durable des sociétés, de la paix et de la solidarité. Alors, l'association France Volontaire s'est félicitée, elle, de voir que plusieurs de ses contributions ont été retenues dans cet agenda 2030 et elle constate avec satisfaction que l'engagement citoyen dans le domaine du développement et de la solidarité internationale est reconnu comme, je cite, un levier d'action transversale qui permet une appropriation concrète et durable des enjeux globaux et de l'agenda 2030. Reste à savoir si toutes ces bonnes intentions affichées seront concrétisées dans l'action gouvernementale. Des nouvelles concernant les associations qui travaillent dans le domaine de l'insertion par l'activité économique et qui manque, comme beaucoup d'autres associations, de moyens. Le pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique, l'IAE, a été remis le 10 septembre dernier à Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Il a été rédigé par le Conseil de l'inclusion dans l'emploi, qui est présidé par Thibaut Guyy, directeur général du groupe d'insertion ARES, et comprend des membres de l'APF, de SOS Emploi ou encore de la Croix-Rouge Insertion. Ce pacte a pour ambition d'être un guide d'action plutôt qu'un rapport de plus, comme le souligne Thierry Guyy. Il a pour objectif de placer 240 000 personnes en parcours d'insertion chaque année dès 2022, soit 100 000 de plus qu'aujourd'hui. Les mesures proposées s'articulent autour de 5 axes, accompagner chacun selon ses besoins, innover et libérer le potentiel de création d'emplois des structures sociales inclusives, rallier toutes les entreprises et tous les acteurs publics à la cause de l'inclusion, agir ensemble sur tous les territoires, simplifier notamment les démarches administratives et digitaliser, co-construire en confiance. Un ensemble de mesures dont le budget est évalué à 1,3 milliard d'euros. Bien évidemment, il ne s'agit pour l'heure que de propositions, la balle étant dans le camp de la ministre du Travail, même si le chiffre de 240 000 personnes en parcours d'insertion a déjà été annoncé par le président de la République, Emmanuel Macron, l'an dernier. Le mouvement associatif, pour terminer, réclame des actes au secrétaire d'État chargé de la vie associative, Gabriel Attal. Dans une interview récente au quotidien Le Parisien, le secrétaire d'État a indiqué, je cite, « Nous débloquons 28 millions d'euros pour les petites associations ». Fin de citation. Il a également annoncé dans cette interview la création de 4000 emplois financés à hauteur de 7000 euros par an sur 3 ans. Une annonce déjà faite l'année dernière en novembre 2018, ce qui provoque une certaine irritation et impatience du côté du mouvement associatif qui a déclaré dans un communiqué daté du 9 septembre dernier, je cite, « Ces quelques mesures déjà prévues depuis plusieurs mois sont loin de pouvoir constituer le grand plan pour la vie associative souhaité par le président de la République à l'issue du grand débat national. Pour le mouvement associatif, ce grand plan de la vie associative se fait toujours attendre. » Et il propose l'affectation de l'enveloppe non consommée des parcours emploi compétences dont tous conviennent qu'ils ne sont que très partiellement adaptés à leur cible, à la création de 5000 emplois dès 2020. C'est en tous les cas la proposition du mouvement associatif. Et voilà pour l'actualité associative de cette semaine. Et on arrivait bien à la fin de cette émission Fréquence Association. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Microscope, hein, le magazine consacré aux radios associatives du nord de la France. Et puis, bien sûr, à 11h, vous avez rendez-vous avec Savoir Plus. On rediffusera, bien évidemment, dans Savoir Plus, l'émission consacrée eh bien à Google et aux GAFA. Est-ce qu'elles passent leur temps à nous épier ? Élément de réponse avec Jérôme Mondu, hein, de la société Interliguerée située à Templemar, qui est également un spécialiste, hein, de ces questions. Et puis, j'allais vous dire également le programme de cet après-midi. Et bien, à partir de midi, vous retrouverez une rediffusion des routes de l'accordéon. Ce sera juste après le flash info et ce sera bien sûr en compagnie de Christophe Gréber. Sans oublier, et bien Giovanni sous le signe de l'automne, hein, avec l'émission Dolce Vita. N'oubliez pas non plus Tous en scène avec Annie, la dame brune, qui va recevoir, donc cette fois chez le programme par rapport à ce matin, Francesco da Conceição, auteur, compositeur, interprète, romancier, qui était d'ailleurs présent ce week-end au salon Crécoartistique à Bully-les-Mines. Il y aura également Michèle Gaeta, la passion de l'écriture, c'est ce qu'elle va vous faire découvrir au cours de cette interview. Et on retrouvera également dans cette émission Gaëtan Giuliana, qui est lui auteur, compositeur, interprète. Ce sera donc entre 15h et 17h, et puis à 17h localement plus, présenté par Giovanni et par Willy. 18h, pas de Génération Country exceptionnellement. Vous retrouverez notre ami DJ Voyou la semaine prochaine, et puis à 20h, Turbo Rock, l'émission consacrée au Hard Rock et au Heavy Metal, suivi de la nuit Hard Rock et Heavy Metal sur Radio Plus. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Plus. Dans quelques instants, Microscope.